faire. Pour une image, c'est une image, je dirais même un symbole. La flamme olympique sur le toit du monde, si petite et pourtant si haut. Sous la neige, la flamèche entourée de bons hommes emmitouflés dans des anoraks rouges avec des banderoles Pékin 2008 et le slogan en vigueur, un seul monde pour un seul rêve. La torche aura donc fait le tour du monde avant de revenir en Chine, enflammant au passage quelques capitales. C'est à la photo maintenant de refaire le chemin en quelques secondes à l'assaut des médias internationaux avec les infos qui vont avec. Les alpinistes qui ont hissé la flamme en haut de l'Everest sont en majorité tibétains, et cela 3 mois jour pour jour avant le début des Jeux. Communication parfaite, la Chine aimerait en faire une image historique digne peut-être de celle du premier pas de l'homme sur la Lune. Pour quelqu'un de ma génération, c'est-à-dire plus tout à fait jeune mais pas encore vieux, élevé avec le titre menaçant du bouquin de Perfit « Quand la Chine s'éveillera » publié en 73, cette image est comme une preuve, c'est fait. La Chine ne promet pas la Lune mais domine le monde, du moins si son sommet vaut pour le tout. Propagande impeccable, c'est plus d'un demi-siècle de savoir-faire. Regarder en haut pour ne pas porter ses yeux en bas, là où les droits de l'homme sont piétinés et la répression implacable. Et l'on va nous raconter que les JO ne sont qu'affaires de sport, carabistouille. La compétition est économique, politique et les jeux sont déjà faits.
Culture vive, Pascal Paradis.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché, en plein mois de mai, la révolution. Entre les pavés, des fleurs vont pousser, pour tous ceux qui font la révolution, la révolution.
En 68, Dominique Grange chantait Grève illimitée et anniversaire oblige, la chanteuse revient avec un album intitulé N'effacez pas nos traces. Bonjour Dominique Grange.
Bonjour.
Vous chantiez où à l'époque, sur les barricades ?
Non, je ne chantais pas sur les barricades, je chantais dans les usines occupées. Pendant tout le mois de mai, le mois de juin, j'ai fait quasiment que ça. Ce qui fait que j'étais assez peu au quartier latin et qu'en fait, voilà, le contact direct avec la lutte des plus exploités, il s'est fait par le biais de la chanson.
Alors cet album est mis en image aujourd'hui par Jacques Tardy, immense auteur de bande dessinée, illustrateur de la Commune de Paris et créateur entre autres d'Adèle Blanc-Sec. Bonjour Jacques Tardy.
Bonjour.
Vous étiez où en 68 vous ?
Moi j'étais au quartier latin, je terminais les arts déco et je me baladais beaucoup.
Et vous n'avez rencontré Dominique Grange que plus tard, hein,
plus tard,
dans les années 70, et depuis elle est un peu votre Carla Bruni.
La Louise Michel.
Oui, je préfère. Enfin, je préfère quand même le physique de Carla Bruni à celui de Louise Michel, mais
faut choisir. Donc vous êtes lié dans la vie par ce lien qui s'appelle le mariage. Voilà. Enfin, avec nous Roland Castro, architecte urbaniste maoïste en mai 68, c'est de notoriété publique, responsable du VLR, groupuscule qui répondait au doux nom de Vive la Révolution.
Groupuscule. Je vous en prie.
Quand même, combien vous étiez ?
À mon avis, il paraît être très nombreux. D'abord, VLR, ça n'existe pas en 68, c'est juste après.
Alors, en 68, vous étiez où ? Dans quel...
J'étais dans l'organisation la plus stupide, l'Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes.
Et vous disiez ça à l'époque, déjà stupide ?
Non, non, j'ai... stupide parce qu'elle s'était opposée au mouvement au début, donc bon. Voilà, c'était posé au mouvement au début parce que, par pur dogmatisme.
Mais est-ce que vous y croyiez à l'époque, à la révolution ? À la révolution au sens strict de la révolution, hein ?
Ouais.
Oui ?
Oui, oui.
Donc sous les pavés, la plage, c'était au premier degré ?
Absolument, oui. Mais comment vous dire, le mot révolution envoie toujours à l'idée politique. Je crois que c'est un événement plus profond que ça.
Dominique Grange, vous êtes d'accord avec ?
Oui, parce que c'est une espèce de rêve collectif, de rêve éveillé d'un autre monde, d'une autre société qu'on a envie de changer à tout point de vue, du point de vue de l'autorité qu'on subit, mais aussi de tout le cadre qui nous opprime, le cadre familial, espèce de conservatisme de cette société de l'époque. Et on voit bien que c'est une aspiration commune à la fois aux étudiants, aux intellectuels et aux ouvriers aussi, parce que les ouvriers n'étaient pas seulement en lutte pour leurs revendications, bon, certains, oui, mais il y avait aussi dans les usines occupées cet esprit qui soufflait, cette aspiration à changer le cadre dans lequel on vit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les reprises du travail ont été difficiles, parce que même quand les revendications étaient satisfaites, les gens avaient rêvé d'autre chose, ils avaient rêvé ensemble, et ça, c'était vraiment l'effondrement, parce que quand même, on a été vaincus, il faut le dire, on a perdu.
On va pas refaire l'histoire ni sombrer dans trop de nostalgie, mais j'aimerais qu'on parle un peu des pavés parisiens, justement, de la ville. Est-ce qu'il y a un avant et un après mai 68, si on veut parler donc de la ville? Par exemple, vous, Jacques Tardy, qui aimait tant dessiner Paris, ces boulevards et ces trottoirs mouillés, est-ce que vous voyez une différence?
La ville n'a pas beaucoup changé, à part les constructions récentes. Paris est quand même essentiellement une ville du 19e siècle, même antérieure. Je veux dire, le décor par lui-même n'a pas beaucoup bougé.
Quartier latin est quand même envahi par les restos grecs aujourd'hui, Saint-Germain par les boutiques
de
luxe.
Ah oui, mais pour ajouter les McDo et tout ça. Oui. Quand je dessine Paris, par exemple, que je vais faire des repérages, des photos sur place, je remplace le McDo par une pharmacie ou une épicerie ou une boulangerie. J'essaie de redonner sa dignité à Paris.
Roland Castro, vous êtes d'accord que la ville, finalement, n'a pas tant changé que ça? Je parle de Paris, pour l'instant.
Paris, c'est une texture urbaine qui a été fabriquée par l'histoire, et Haussmann et Alphand. Donc tout ça, c'est quand même des grilles d'arbres, c'est tout un vocabulaire de mobilier urbain, etc., qui est resté, c'est des arbres incroyables, c'est toute l'avenue plantée, tout ça, ça bouge pas. Donc Paris même s'est rebellé quand il a commencé à faire des conneries. Quand on a fait les Olympiades, c'est pas parce que c'est des tours, mais avoir fait de l'habitat sur dalle, Haussmann s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'on déconnait.
Roland Castro, si on parle de la ville au sens global et non plus de Paris stricto sensu, est-ce qu'il y a quand même une révolution dans la façon de concevoir l'habitat et la ville liée à 68? Parce que dans ces années-là, 60, début des années 70, c'est la période où on construit des tours, des banlieues HLM, des cages à poules, tout ce qui est des contre-modèles aujourd'hui.
Mais alors, bon, c'est assez amusant, oui, il y a une vraie lien, parce que la critique en acte, la déconstruction mentale des grands ensembles, par exemple, on a commencé aux Beaux-Arts en 66. On a cassé l'école des Beaux-Arts. Il y a eu un mouvement culturel très profond chez les architectes. Donc la réflexion sur le retour à la ville, arrêter de fabriquer des grands ensembles, elle s'initie à ce moment-là. Elle fait partie du processus.
Par un effet d'intuition ou...
Non, parce que on était des étudiants. Enfin, comme dit Christian de Port-Lampin, on est des étudiants dont toutes les leçons ont été négatives. Il a fallu qu'on construise entièrement une pensée. La pensée de la Charte d'Athènes, la pensée de Le Corbusier, qui par ailleurs est un immense artiste, donc qui complique les choses, pour arriver à en parler sérieusement, c'est quand même un abruti absolu sur le plan urbain. Cette pensée-là, il faut la déconstruire. Moi, j'ai continué, puisque je remodèle des quartiers. Je pars des trucs les plus moches, et je retransforme.
Donc, oui, il faut rappeler que vous avez notamment été le monsieur banlieue 89, cette mission voulue par François Mitterrand, qui était justement de remodeler toutes les banlieues françaises.
Voilà. Bon, c'est un vaste programme qui n'est pas terminé du tout. Mais bon, jamais trop tard. Donc, il y a eu les situationnistes disaient qu'on dépendait des architectes. Nous-mêmes, aux Beaux-Arts, occupant l'école, on avait inventé une injure. On disait « architecte !» comme injure. Et c'était une injure. Moi, j'ai dessiné des machins qu'aujourd'hui, je transforme complètement. C'est drôle.
Mais il a fallu du temps, quand même, pour que, justement, ces banlieues voient l'effet de 68 souffler. Parce que vous êtes devenus, vous, Port-en-Parc, etc., des architectes constructeurs, ou actifs, en tout cas, au début des années 80, en fait.
Mais oui, parce que, après 68, d'abord, il y a un moment de dépression. Tout ça n'est pas très drôle, dans les années 71, 72. Après. Et puis, on a reconstitué une pensée, on a une production dessinée absolument énorme, mais rien à construire. Mon premier bâtiment, je dois avoir 40 ans quand il est enfin fait, c'est le travail de Saint-Denis, donc, le temps en architecture est très long, la pensée c'est très long. En dessin, avec Grimbach, on a fait un projet en 74. La première inauguration d'un quartier remodelé à Lorient, transformé, métamorphosé complètement, c'est en 88.
En mai 68, le mot de banlieue pratiquement n'existe pas. Mai 68, c'est un mouvement d'ouvriers et c'est un mouvement d'étudiants essentiellement, Dominique Grange, non?
C'est d'abord un mouvement étudiant, mais évidemment, il est précédé de mouvements sociaux. Il y a des grèves en 67, très importantes. Il y a des mouvements sociaux tout le temps qui vont se nourrir et qui vont se nourrir réciproquement avec ce mouvement de remise en question de l'enseignement, des maîtres, etc. chez les étudiants. Mais on ne peut pas les séparer. Les premières usines qui se mettent en grève, c'est en solidarité avec les étudiants arrêtés à la Sorbonne. Donc le mouvement, il se rejoint, même si la jonction, on le sait, va être difficile, mais pour aussi tout un tas de raisons qui sont notamment le fait que les syndicats et particulièrement les bureaucraties syndicales comme la CGT n'ont rien fait pour qu'il y ait une jonction des deux mouvements.
Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante.
Monsieur Segui, votre comité confédéral national extraordinaire vient de se terminer. Quelles sont les conclusions que vous pouvez nous en donner ?
On sait que la CGT a, dès le début, affirmé sa solidarité avec les étudiants en lutte, se traduisant par un grand nombre de travailleurs ayant décidé l'entrée en lutte sous la forme de grève générale illimitée avec occupation des usines.
Alors, quand on parle de la ville, il faut aussi parler du lien social, parce que c'est pas que les bâtiments, ça n'a pas d'existence en soi, les bâtiments, si ce n'est pas au service des gens qui y vivent et qui y habitent. Est-ce que finalement, mai 68 n'a pas été la vie d'essai d'une forme de solidarité, de cohésion sociale, et d'une certaine façon, la date de naissance de l'individualisme, notamment au sein des villes, au sein de la structure sociale? Roland Castro.
Moi, je pense que l'individualisme, c'est aujourd'hui sous la forme négative. Je pense que mai 68 initie l'arrivée, non plus du collectif, mais de la personne. Enfin, la bonne lecture de Marx. Hein, on a mal lu le manifeste communiste, donc à ma connaissance, il y a marqué l'émancipation de chacun est la condition de l'émancipation de tous. La lecture vulgaire marxiste, c'est dans l'autre sens. Le collectif sauvera chacun. Ça a montré son échec. Ce que montre 68, c'est que chacun existe.
Sur cette question de l'individuel et du collectif, Dominique Grange, vous qui étiez dans les usines, vous qui avez arrêté la chanson d'ailleurs pour aller travailler en usine, vous pensez que c'est quoi ? C'est l'acte de décès du collectif, mai 68 ?
Non, pas du tout. En tout cas, pas pour moi. Précisément, je sors de ma perspective qui est de faire une carrière, entre guillemets. Ça marche bien. Je travaille avec Guy Béard. Je viens de faire un 45 tours. Je travaille beaucoup. Je fais du théâtre. Je fais de la télé. Je chante dans les maisons de la culture avec Béard. Enfin, c'est plutôt quelque chose d'ascendant dans ma vie, cette période-là. Et puis arrive 68 et c'est pour moi la prise de conscience de cette lutte des plus exploités que je n'ai pas rencontrée avant. C'est cette mise en contact, ces discussions que je peux avoir, qu'on a d'ailleurs les uns et les autres, j'étais pas la seule chanteuse à faire ça, avec les ouvriers. Bon, pour moi, c'est le choc de la lutte des classes, c'est la prise de conscience politique très forte, et cette impression que avoir poursuivi ma carrière dans un but finalement complètement individualiste, c'était vraiment quelque chose, j'étais complètement à côté de la plaque et que c'est vain. Et en plus, j'ai pas envie de reprendre un métier où j'ai vu en mai-juin des gens, j'ai vu ce qui s'est passé pendant la grève de l'ORTF, je déteste le show business, je me sens pas faire partie de ce monde-là. Donc en effet, je quitte pas le métier pour aller m'établir en usine, mais c'est pas tout de suite. C'est après, quand je vais rentrer dans l'organisation maoïste La Gauche Prolétarienne en 69, qu'en effet, je vais participer à ce grand mouvement d'établissement des intellectuels en usine et que je resterai un an en usine et puis que je vais m'engager de façon très très radicale jusqu'à être dans la clandestinité pendant près de 4 ans. Mais j'arrête le métier parce que pour moi, c'est impossible, le retour à la normale est impossible. Me reprendre à zéro avec l'idée que en fait, je veux avoir un auditoire de plus en plus large, voir ma tronche sur les murs, etc. et qu'on parle de moi et donc entrer dans la compétition aussi du monde de la chanson m'intéresse plus du tout. Donc je suis entrée dans le collectif.
Pourtant, j'ai l'impression que la normale continue avant et après 68 dans votre album, enfin dans les dessins qui illustrent l'album de Dominique Grange, Jacques Tardy. Il y a toujours ce franchouillard avec son béret et sa baguette qui traverse chacune des pages.
C'est la persistance de la France. Qui passe à côté de tout, ça, on le trouve à toutes les époques. Mais moi, à l'époque, je termine les Arts Déco et je suis pas rentré encore dans la vie professionnelle. Je me balade, je regarde tout ça. Je ne suis pas militant. Je ne suis pas dans une organisation. Donc, tout à l'heure, on parlait de ce recul un petit peu. C'est ce recul que j'ai. C'est-à-dire, je regarde beaucoup de curiosité. Mais il y a quand même une chose qui me saute aux yeux. C'est qu'effectivement, le garçon de café se laisse pousser les cheveux et que les gens parlent. C'est-à-dire que les choses qu'on avait en tête, tout d'un coup, on les voit écrites sur les murs ou sous forme d'affiches. On dit, tiens, quelqu'un est passé par là, a écrit ce que je pense. Et il a osé l'exprimer. Donc à partir de ce moment-là, il y a une espèce de libération. Et cette libération, moi, quand je suis aux Arts Déco, j'envisage déjà de faire de la bande dessinée. On essaie de monter un atelier de bande dessinée. De la même façon, il devient inenvisageable, par exemple, d'aborder la bande dessinée en racontant des histoires de cow-boys ou d'aventuriers. Bon, l'idée, c'est quand même d'utiliser ce moyen d'expression pour essayer de faire passer quelque chose. Ça, c'est l'apport de 68. Et après, on a découvert, à travers Actuel, des dessinateurs comme Crumb, Shelton, etc. Et tous les comics américains underground et tout, qui nous ont absolument passionnés. Il y a eu création de journaux. Donc ça, c'est vraiment l'apport 68. Ça fait partie des acquis.
Effacez pas nos traces. Tout est écrit. Passant ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces par-delà les frontières. Dans les années 60, résonna de nouveau le mot libération. Les maquis du Vietnam, aux rues effervescentes d'un vieux quartier latin en pleine insurrection. Des hauts fourneaux lorrains, au carreau de la mine, la révolte gagna le métro et les gares. 10 millions d'ouvriers occupèrent les usines, et ce fut la plus grande grève de notre histoire. N'effacez pas nos traces.
N'effacez pas nos traces, chanson qui donne le titre de votre album. Dominique Grange, à qui est adressée cette injonction?
Ah, devinez, on va pas dire son nom, ça lui ferait trop plaisir. Le mari de Carla?
À Jacques Tardy? À celui qui voulait liquider l'esprit de mai 68?
Oui, bon, c'est vrai que c'est une provocation et que, voilà, on y fait tous allusion. De toute façon, bon, il n'a pas le pouvoir de liquider quoi que ce soit, ça nous appartient, c'est notre mémoire et c'est l'histoire des gens qui se sont battus, donc il n'a rien à liquider du tout. Mais enfin, on a besoin de faire entendre un peu, nos voix et notre, c'est ce qui nous reste d'espoir de changer cette société qu'on nous impose en nous disant qu'il ne peut pas y avoir d'autre modèle que celui dans lequel on vit. Alors c'est un peu cette idée dans cet album, c'est l'idée de transmettre des choses qui nous paraissent importantes, qu'on a dites et qu'on peut redire d'une autre façon aujourd'hui. Donc sur cet album, il y a des chansons de 68 que j'ai écrites vraiment dans le mouvement ou juste après, et puis d'autres récentes dont N'effacez pas nos traces.
Alors vous qui avez illustré, Jacques Tardy, la Commune de Paris dans cette série d'albums qui s'appelait Le Cri du Peuple, est-ce que vous faites vraiment des parallèles? Est-ce que vous pensez que l'esprit de mai 68 souffle encore aujourd'hui, ou que tout ça s'est éteint comme l'héritage de la Commune d'une certaine façon?
Ben non, ça s'est pas éteint, parce qu'il y a les acquis, n'oublions pas, bon, la Commune, des idées sont lancées, on ne peut plus les arrêter. Bon, en 1871, on brûle la guillotine devant la mairie du 11e, il faudra attendre un siècle avant qu'on supprime définitivement la peine de mort. Des tas de mesures ont été prises par la Commune. Et en ce qui concerne 68, c'est pareil. Par exemple, un personnage comme Adèle Blanc-Sec est certainement pas étranger. Sa création n'est pas étrangère à 68. Parce qu'on est dans, il y a eu l'année de la femme, on est en pleine période MLF, et tout naturellement, quand on me demande de créer un personnage, c'est un personnage féminin.
Mais même si elle vit à la fin du 19e siècle.
Oui, oui, tout est permis. Mais je veux dire, il y a des acquis. Madame de Gaulle ne tolérait pas de divorcer au gouvernement, paraît-il. Je suis désolé, certains qui actuellement sont au gouvernement vivent sur des acquis de 68.
C'est la même qui voulait le liquider d'ailleurs. Merci à tous, Roland Castro. Vous serez le 29 mai au pavillon de l'Arsenal pour un débat autour de l'évolution de Paris de 68 à aujourd'hui, un peu le thème d'aujourd'hui. N'effacez pas nos traces avec vos chansons, Dominique Grange, et vos dessins, Jacques Tardy, est édité chez Casterman. Et vous serez aussi en concert, Dominique Grange, le 16 mai au Forum Léo Ferré à Ivry. Le journal, et ensuite vous retrouvez les chroniqueurs.